enjeux de santé, 88.4.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel enjeu de santé. Aujourd'hui, on va parler de la Journée nationale de la prévention du suicide. C'est d'ailleurs la 17e, elle se déroulait le 7 février. Et il y avait un thème particulier, donc imposé par l'UNPS, qui est l'Union nationale pour la prévention du suicide. C'était donc le thème « Rôle et enjeux des entourages pour la prévention du suicide ». Je suis donc allée voir Yann Menot, qui fait partie de COEPS 35, qui est donc un collectif, COEPS 35, collectif Ensemble Prévention du Suicide en Ille-et-Vilaine, où nous avons retracé un petit peu le programme de cette journée, avec différentes tables rondes et autres intervenants. Mais nous allons aussi parler du suicide en Bretagne. Eh bien donc, je suis avec Monsieur Menot Yann, qui est membre du collectif Ensemble Prévenons le Suicide en Ille-et-Vilaine. Et j'aimerais donc savoir pourquoi cette envie donc de sensibiliser les gens à la prévention du suicide.
Alors plus qu'une envie, je pense qu'il faut parler d'une réponse à un besoin. En Bretagne, et depuis une quarantaine d'années à peu près, on identifie bien une forme de sursuicidité, c'est-à-dire que notre région est la première de France touchée par la problématique du suicide, avec des taux, si on les compare par rapport aux moyennes nationales, supérieurs de l'ordre de 160%. Si on prend une échelle de grandeur, et si la Bretagne était comparativement dans les taux de la moyenne nationale, il faudrait à peu près comptabiliser chaque année en Bretagne de l'ordre de 500 décès par suicide. Aujourd'hui, les décès sont plutôt de l'ordre de 830 à 850 chaque année, même si grâce aux efforts de la prévention, il est possible de travailler pour les réduire. Donc cette approche de la prévention du suicide, elle n'est pas récente en Ille-et-Vilaine. Elle existe depuis bientôt 15 ans maintenant, depuis 1996-1997, ce qui correspond à peu près également au début de la structuration nationale de la prévention du suicide avec la création de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Ça a été un point de départ en Ille-et-Vilaine de centrer autour de cette problématique l'ensemble des énergies, des bonnes volontés venant à la fois d'associations, d'institutions, de structures extrêmement variées qui ne sont pas expertes, qui ne se positionnent pas comme ça en prévention du suicide, mais qui souhaitent agir, qui souhaitent mettre leurs compétences et leurs moyens collectivement au service de cette prévention, parce que pour les acteurs de la prévention du suicide, il est important de répéter que chacun est acteur de cette problématique de santé et que tous ont un petit rôle à jouer et un petit morceau de la réponse à construire collectivement pour qu'on puisse enrayer cette dramatique problématique de santé publique.
Et quels sont les moyens et ces compétences que vous utilisez pour prévenir justement le suicide ?
Alors ils sont nombreux, variés. D'abord, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, en parlant au nom du collectif, c'est déjà porter la question du suicide et de sa prévention sur la place publique. C'est-à-dire que je remercie votre émission de donner la parole à un sujet qui est extrêmement tabou. qui est compliqué, complexe à aborder, qui est multifactoriel. Mais déjà, la première, le premier mode d'intervention pour faire reculer de ce fléau, c'est d'en parler. On n'explique pas assez souvent que parler du suicide ne provoque pas de passage à l'acte. Au contraire, ça permet d'ouvrir des espaces dans lesquels, à la fois, des personnes qui sont concernées se sentent autorisées elles-mêmes à faire part de leur mal-être, de leurs intentions suicidaires parfois. Ça permet aussi à l'ensemble des professionnels, des bénévoles, des associations qui se sentent concernés eux aussi, de se sentir un peu moins démunis en sentant que personne n'a l'ensemble de l'expertise et donc de favoriser les échanges entre tous ces professionnels. Donc on essaye de multiplier les actions. Certaines sont en direction de professionnels, de bénévoles qui sont déjà investis sur la thématique. Ce sera ce qu'on va faire notamment à l'occasion du colloque qui est organisé jeudi 7 février à Rennes pour reprendre la thématique nationale de cette journée nationale de prévention du suicide. Là, c'est plutôt un espace de formation, d'actualisation des informations concernant cette problématique, d'échange de pratiques entre les professionnels. Que les professionnels apprennent à se rencontrer, à se connaître aussi pour mieux travailler ensemble. Donc là, c'est vraiment un axe très accompagner ceux qui sont acteurs de cette prévention. C'est une autre démarche. Il faut également organiser des dispositifs qui, eux, vont essayer de répondre aux besoins des populations concernées et qui vont également essayer de s'appuyer sur l'expérience et les savoir-faire, les savoir-être des personnes qui ont été confrontées à cette problématique. C'est pour ça que notre collectif organise également, ce sera le cas au mois d'avril à Rennes, des rencontres citoyennes qui sont là des actions grand public pour échanger sur le suicide, son accompagnement et surtout sa prévention.
Et donc j'aimerais revenir sur cette 17e journée nationale donc de la prévention du suicide avec voilà, ce thème rôle et enjeu des entourages. Pour vous, ça vous évoque quoi voilà, ce thème ?
Alors vous l'avez formulé, rôle et enjeu de l'entourage, c'est le thème national. Nous en région Bretagne, en tout cas via le collectif Ensemble Prévenons le Suicide Ille-et-Vilaine, on l'a un peu reformulé, on l'a intitulé accompagnement de l'entourage et avec l'entourage. Et je pense que c'est une de nos spécificités aussi en Bretagne, peut-être les expériences des formes de collectifs et de réseaux qui existent sur l'ensemble de notre région. On a souhaité positionner l'entourage également comme un acteur de cette prévention du suicide et pas simplement être en direction d'eux. Donc on va essayer de définir d'abord ce que sont les entourages au pluriel, parce que c'est très variable et quand on parle de prévention du suicide, il nous vient naturellement les entourages les plus proches, la famille, les amis, les collègues. Mais il est important de ne pas négliger et de ne pas occulter l'importance d'autres entourages, l'entourage institutionnel, celui qui va piloter l'ensemble des politiques de public, qui va mettre à disposition les services de soins, les services d'écoute, par exemple, les entourages associatifs, des entourages un peu plus éloignés que sont les acteurs du monde du travail, les responsables de ressources humaines, les chefs d'entreprise, les syndicats. Tous ces personnes ont un rôle à jouer dans la prévention du suicide et doivent être concernés également en étant destinataires de cette prévention.
Et donc l'entourage prend une place vraiment importante donc dans la prévention aux personnes suicidaires.
Oui, l'entourage, il est forcément concerné. Quand un acte suicidaire est posé, c'est-à-dire quand il y a une tentative de suicide, qu'elle aboutisse ou non à un décès, on estime que c'est la vie d'au moins 7 à 8 personnes qui va être entièrement bouleversée. Je dis bien bouleversé, hein, pas simplement un peu choqué ou ému. Non, vraiment des personnes pour lesquelles la vie ne sera plus pareille après avoir été confrontée à cela. Donc l'entourage, il est forcément présent quand on parle du risque suicidaire. Il est à la fois présent parce qu'il peut être aidant, mais également parfois parce que son activité est délétère. Il y a toutes les positions. L'entourage, il va être culpabilisé quand un acte est posé, mais il va avoir un rôle à jouer pour accompagner la personne, pour éventuellement permettre de reprendre pied. Et quand malheureusement la tentative de suicide aboutit au décès, eh bien, il est évidemment important de prendre en charge cet entourage, de lui permettre d'avoir un accompagnement pour s'exprimer et pouvoir reconstruire sa vie à côté.
On dit souvent en effet que le suicide c'est un peu égoïste parce que justement on laisse l'entourage, en fait on n'y pense plus. Est-ce que vous pensez justement que cet entourage le ressent comme ça, comme un délaissement ?
Les réactions des entourages, elles sont multiformes, elles sont variées. À la fois, elles sont variées selon les personnes et puis selon les temps. C'est-à-dire que le jour de l'acte, on n'aura pas la même réaction que lorsque un mois ou deux mois se seront écoulés, qu'on aura pris un peu de recul, ou même 10 ans après. Voilà, on peut passer par différentes étapes en termes de ressenti quand on est l'entourage d'une personne qui pose un acte suicidaire. Est-ce qu'il faut parler de délaissement ? Est-ce qu'il faut parler d'acte égoïste ? Je ne suis pas forcément sur cette longueur d'onde-là. Je crois qu'il faut essayer de creuser justement pour mieux comprendre. Un des fruits de l'expérience qu'on a récolté, avoir travaillé avec des personnes qui ont été concernées par des problématiques suicidaires, qui ont fait des tentatives de suicide et qui se sont exprimées ensuite, la principale tendance, en tout cas ce qu'il faut marteler, c'est que les personnes affirment après coup qu'elle ne souhaitait pas mourir. Le geste suicidaire, il est souvent posé, la plupart du temps, pour mettre fin à une souffrance. C'est-à-dire que les personnes suicidaires sont dans un entonnoir, dans une spirale qui les conduit inexorablement vers la tentative de suicide pour mettre fin à une souffrance. Et souvent, quand on arrive à ce moment-là, plus rien d'autre n'existe à côté. C'est-à-dire qu'on a de nombreux témoignages de personnes qui nous disent « J'avais conscience du mal que ça ferait à mes proches et pour autant, faire cesser la souffrance était devenu plus fort que tout et arrêter toutes les autres pensées. » Ce qui est important de dire aussi, c'est que cette spirale, elle peut être cassée. Elle peut être stoppée à n'importe quel moment et par n'importe qui. C'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Et quand je dis comme ça, je veux surtout pas provoquer des remises en question d'entourage qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su être cet acteur-là pour casser la spirale. D'ailleurs, il est important d'affirmer que plus on est proche et plus les personnes suicidaires vont nous protéger et vont nous préserver de l'acte qui va être posé et vont essayer de nous le cacher au maximum. Donc ce ne sont pas forcément eux les plus à même de rompre cette spirale. Mais on sait bien que restaurer un lien avec un individu qui, dans cette spirale, va progressivement mettre fin à tous les contacts qu'il a, d'une manière plus ou moins exprimée, ça peut être cassé. Voilà, parfois, un bonjour, un sourire, redonner confiance ou espoir à quelqu'un, c'est possible, c'est faisable, c'est une posture de citoyen avant tout, parfois également de professionnel et de bénévoles dans les associations. Mais en tout cas, chacun peut en être acteur de cette prévention.
Give you all of me.
Cette petite pause est déjà terminée. C'était donc Aretha Franklin avec son titre Ain't No Way. On reprend donc pour parler d'un sujet sérieux et tabou, le suicide. Nous allons donc reprendre avec Yann Menot de Coeps 35, qui est un collectif ensemble prévenons le suicide en Ille-et-Vilaine. J'aimerais aussi savoir, vous pensez que la société a quoi comme vision donc, de cet acte? Je veux dire, par exemple, l'entourage va être forcément aussi au contact de son entourage. Et par rapport à cet acte, est-ce qu'il y a une vision un peu mauvaise, un peu péjorative? Elle a fait ça, c'est nul, enfin voilà quoi.
Là encore, il n'y a pas de réponse exacte. Les réactions, elles sont vraiment multiformes. Ce ne sont pas les mêmes quand elles sont sous le coup de l'émotion ou, à contrario, avec le temps, avec une certaine réflexion. On s'aperçoit que l'entourage, après un décès, va relire, va regarder au travers du prisme de l'événement suicidaire tout ce qui s'est passé avant et le réinterpréter différemment. Et à partir de cela, les réactions vont être très variées. Je vous dis, certains vont être dans la colère. Certains vont être dans la culpabilité parce qu'ils vont se demander ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas su faire. D'autres vont en vouloir effectivement à la personne d'avoir posé un acte qu'elle juge égoïste. Certaines seront tout simplement tellement tristes qu'il n'y aura absolument aucune autre réaction qui pourra prendre le pas sur cette tristesse.
Et pour vous, quelle serait la meilleure réaction? Alors évidemment, pour vous, je me doute qu'il n'y a pas de vraie réponse ou de...
Non, et puis je me garderai bien d'avoir un avis là-dessus. Je crois que ça dépend notamment de la nature de la relation qu'on a avec la personne, du lien qui est tissé, des attentes qu'on avait forgées dans cette relation. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réaction. J'évoquais tout à l'heure la question de la colère. C'est extrêmement difficile quand on en parle avec des personnes qui ont connu des décès par suicide autour d'eux, parce que cette colère qu'elles ne peuvent réfréner va rajouter un mal-être en plus de leur douleur d'avoir perdu quelqu'un. Elles vont s'en vouloir d'être en colère. Et ça, je crois qu'on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Ces réactions, elles semblent en tout cas naturelles. Elles peuvent être dépassées par le temps, mais toutes ces émotions qui sont générées par l'acte suicidaire, elles prennent vraiment le pas, bien souvent, sur la réflexion, sur l'analyse et sur une position qui pourrait être mesurée et prise avec recul. Quand on est face à un drame aussi tragique, c'est bien souvent le cœur plus que la tête qui parle.
Revenons donc à cette 17e journée nationale pour la prévention du suicide. Je vois donc qu'il y a différents débats et échanges. C'est donc comme vous disiez, très important de parler, que ce soit entre professionnels ou personnes qui vivent ces choses. Je vois notamment donc un individu, ça n'existe pas. Ça me trouble assez. Comment on peut réfléchir là-dessus?
Ah, vous faites référence à l'intitulé d'une des interventions de ce colloque, qui sera donc l'intervention de M. Daniel Koum, qui est directeur de Parentèle, une association finistérienne bien connue notamment pour mettre en place des dispositifs d'écoute dans notre région. C'est un titre un peu provoque, mais qui vient qui vient faire écho à la thématique de cette journée et qui vient affirmer, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, que l'humain n'est pas fait pour être dans une sphère sans lien avec les autres. Voilà, un individu, ça n'existe pas, c'est à prendre dans le sens, chacun d'entre nous est lié dans tout un tas de relations avec des entourages qui sont extrêmement variés et que ces entourages, à la fois, ils nous nourrissent, mais ils nous donnent aussi des références pour nous construire. Ils peuvent parfois également être à l'origine ou en tout cas contribuer à un certain nombre de mal-être aussi. Voilà. C'est l'intitulé d'une des interventions du colloque, c'est un point de vue qui sera apporté. La richesse d'un colloque de ce type, c'est de multiplier les différents regards. Donc ce point de vue, on ne lui demande pas de faire l'unanimité, c'est pas ça, on lui demande de donner de la réflexion, du grain à moudre, à penser et à générer du débat et des échanges pour les autres intervenants et les personnes qui assisteront à ce colloque. J'insiste d'autant plus, puisque je l'ai dit déjà, que nous positionnons vraiment la prévention du suicide comme l'affaire de tous. Chacun peut être acteur d'une posture professionnelle, mais d'une posture citoyenne et également de cette prévention. Et ça se retrouve également dans les personnes qui viennent à ce colloque. Ce colloque, nous l'organisons maintenant de manière annuelle depuis 2008. On a un certain nombre de personnes qui sont des fidèles, des abonnés, qui reviennent annuellement, effectivement. Mais ce qu'on note surtout, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité parmi les participants. Donc c'est important pour nous aussi de construire un programme dans lequel chacun va pouvoir trouver des billes pour venir nourrir ses pratiques, que ce soit des bénévoles visiteurs de prison d'un côté, parfois des infirmières scolaires, des médecins du travail, voilà, tout un tas de professionnels ou de bénévoles associatifs d'origine à la fois de formation initiale comme d'origine de secteurs d'activité qui sont extrêmement éloignés les uns des autres. Donc c'est le tour de force à réussir pour organiser ce colloque, c'est de leur donner des points de vue suffisamment variés, suffisamment affirmés aussi les uns les autres, pour que chacun, en croisant ces différentes interventions, eh bien, puisse affiner ses pratiques et envie d'être acteur également.
Je voudrais faire référence à un essai donc voilà, de Émile Durkheim qui s'appelle Le suicide, où justement il fait une typologie des différents suicides. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il y a vraiment différents suicides?
Je pense que chaque suicide est un acte différent. Je dirais même chaque tentative de suicide est un acte différent. Parce que des individus peuvent commettre plusieurs actes au cours de leur vie, et ils n'auront pas forcément tous le même sens. Après, je me garderai bien de commenter les écrits de Durkheim. Par contre, tous les suicides sont effectivement, ou toutes les tentatives de suicide sont des actes indépendants. Pas indépendants d'ailleurs, puisque certains se nourrissent, mais différents les uns des autres, ne sont jamais le fruit d'une seule et unique cause. L'acte suicidaire, c'est toujours la résultante d'une addition ou d'une multiplication de facteurs. Et c'est pour ça que le rôle des entourages est déterminant, parce que des entourages délétères peuvent être compensés par d'autres, au contraire, extrêmement soutenants. Voilà, mais d'un acte suicidaire à un autre, je ne suis pas sûr qu'on puisse étayer des catégories, même si je n'ai pas le recul de Durkheim.
Je vois aussi donc un autre titre d'une table ronde, Entourage, quel rôle, quelle place. Est-ce que c'est vrai, c'est pas un peu difficile et ambigu donc, pour l'entourage de savoir ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent assister la personne qui essayait de se suicider, ou est-ce qu'il faut prendre ses distances?
Extrêmement complexe, et je le rappelle, en tout cas la position de notre collectif est de dire que nous n'avons pas les réponses, on n'a pas de réponse toute faite, c'est en échangeant qu'on peut essayer de construire des pistes de solutions, mais qui parfois nous mènent également à des impasses. Cette table ronde, elle était vraiment spécifiquement destiné à montrer que les entourages peuvent être acteurs quand même, et qu'il ne suffit pas de se mettre dans une posture de diffuser la bonne parole pour que les choses changent. Il faut accompagner les entourages, mais il faut permettre à l'entourage d'être acteur, et quelle que soit la nature de la relation qu'a l'entourage avec la personne. Après, il n'y a pas de simplicité à être dans l'entourage, mais il est parfois très difficile notamment pour les professionnels du soin, d'aider directement la personne qui est dans le mal-être, qui est dans la crise suicidaire. Par contre, permettre à l'entourage d'être un entourage solide, un entourage accueillant, écoutant, qui osera évoquer la situation de la personne plutôt que de se murer dans le silence ou d'avoir peur de... Voilà, quand on est confronté à une personne en mal-être, parfois on a peur de prononcer le mot suicide parce qu'on se dit je risque de déclencher un passage à l'acte, alors qu'en fait c'est complètement faux. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, ne pas se cacher derrière son petit doigt. Et ça, pour ça, il faut donner des clés à l'entourage pour qu'il sache se positionner plutôt qu'être toujours dans l'interrogation de est-ce que je fais bien, est-ce que je risque pas d'aller trop loin. Voilà, donc le rôle aussi des professionnels, c'est de réassurer les entourages qui sont là au quotidien. Alors je le disais, plus on est proche et plus souvent la personne dans la crise suicidaire va essayer de masquer et de protéger ses proches. Mais n'empêche qu'il y a tout un rôle à jouer pour que chacun se sente autorisé à agir. Et ça, c'est l'accompagnement nécessaire des professionnels et des bénévoles. Et puis, il y a l'entourage aussi après le décès par suicide. Et là, il est extrêmement important de proposer un accompagnement, une prise en charge adaptée selon les réactions de chacun. Mais en tout cas, ce sont des actes qui sont tellement bouleversants qu'on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Et il faut vraiment être très présent et être très dans la reconnaissance de l'acte. Il est important de dire il s'est passé quelque chose de dramatique, ne restons pas sans rien faire. Il faut reconnaître la souffrance de manière à ce que les gens puissent à terme reconstruire.